11h midi, Studio B. Studio B.
C'est qui, toi, frère?
Bah, c'est moi, ça.
Vous connaissez pas?
Qu'est-ce que tu fous là?
Bah, j'en sais rien.
C'est pour l'annonce.
Ah, je vais chercher les sparring, puis du chômage, et puis du RSA.
Je m'en fous, j'en tournerai pas à l'usine.
Je me bouge et je trouve un taf.
Mais t'es sérieux là, devant maman?
Je suis pas l'ennemi de l'art et de la liberté.
Moi, j'ai le droit de le faire, toi aussi, t'as le droit de le faire.
Il faut que tu t'habilles correctement.
On n'est pas d'accord.
Temps de prendre tout
l'envol. Venez,
suivez-moi. Et le soleil est là, car je l'ai demandé.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.
Bonjour et bienvenue dans Studio B. Moi, c'est Christophe et avec Camille, jusqu'à midi, comme tous les dimanches, on vous parle de cinéma. Comment ça va, Camille?
Ça va et toi?
T'es venu sans ton gilet jaune aujourd'hui?
Ah oui, ah non, je ne veux pas parler de ça.
Non,
on parle de cinéma, Christophe.
Ok, bah, finalement, on est là pour ça, donc.
Voilà, c'est plutôt, ça tombe bien.
Allez, une heure de ciné à la radio, c'est ce qu'on vous propose tous les dimanches entre 11h et midi. Et cette heure commencera par ma sélection des sorties ciné de la semaine. Je vous ai préparé du Spider-Man, des chats et des incas en mode animé, un petit orphelin et un terrible thriller tiré d'une histoire vraie. Et juste après, le rendez-vous qui fait la pluie et le beau temps de toute la planète ciné. J'y vais pas de Camille.
Oui, on va parler d'une affaire de famille qui se passe au Japon puisque c'est le film de Kore-eda.
À 11h30, le rendez-vous actu dans le box-office, on verra que le Grinch a doublé tout le monde. Et Camille, tu nous diras ce que tu as retenu de l'actu ciné de la semaine.
Et oui, les Golden Globes, les nominations viennent de tomber, Christophe.
Boom,
voilà, merci.
Voilà, ça c'est fait.
et on va parler de Pamela Anderson, parce que c'est toujours sympa de parler de Pamela Anderson.
Ah, écoute, oh, tu parles de ce que
voilà,
tu veux.
Vous êtes d'accord, vous.
Avec Adil Rami, son mari de footballeur.
Oui, exactement, ouais. Ah.
Bon, eh ben voilà, nos invités ont déjà commencé à parler. C'est Mouloud Mimoun que vous avez entendu. On vous en a déjà un peu parlé la semaine dernière, mais ça valait le coup de s'attarder un peu plus longuement dessus cette semaine. On est en plein Maghreb des films. Il y a beaucoup de festivals dans l'Île-de-France, mais celui-ci se démarque déjà en affirmant qu'il n'est pas un festival, mais des rencontres cinématographiques. Mais le Maghreb des films se démarque aussi par sa programmation, une programmation de qualité, faite de films récents, mais aussi de beaucoup de films plus anciens, tous importants à revoir aujourd'hui. Camille, nous avons trois invités cette semaine.
Et oui, nous sommes bien entourés. Ils sont tous les deux programmateurs du Maghreb des films depuis le début du festival. Ils font partie de la mémoire vive de ce festival. Mouloud Mimoun et Gérard Vaugeois, bonjour.
Bonjour, Camille.
Elle est ingénieure du son, directrice de la photographie et réalisatrice du documentaire 10 949 femmes, sorti en 2016. Nassima Guessoum, bonjour.
Bonjour, mais je ne suis pas ingénieure du son.
D'accord, mais vous avez...
J'ai fait le son.
Voilà, vous avez fait le son. Eh bien, on peut dire que vous êtes ingénieure du son.
Non, c'est une insulte pour moi.
Ingénieuse.
Ingénieuse.
Oui, voilà.
Ingénieure avec un E.
Ingénieure du son.
Vous êtes ingénieuse à nos yeux, voilà, c'est ça.
Voilà,
c'est ça le plus important. Vous êtes tous les trois les bienvenus sur Beurre FM. Vous êtes avec nous donc jusqu'à midi pour parler donc du Maghreb des films et de votre film, Nassima Guessoum. On a une tradition dans Studio B, vous la connaissez, c'est de vous proposer de choisir deux questions. Une question que vous avez envie qu'on vous pose et une question que vous... Non, et donc celle-là, on vous la posera. Une question que vous n'avez pas envie qu'on vous pose et celle-là, on ne vous la posera pas. On va vous proposer de les choisir. Du côté du Maghreb des films, Mouloud Mimoun, Gérard Vaugeois, qui s'y colle?
Allez, Gérard.
Je pense que la vraie question, c'est la programmation à venir.
Oui.
Et comme elle est... assez majoritairement algérienne, puisqu'on séquence en principe plus ou moins la programmation. La Tunisie et le Maroc ont été mis en évidence le week-end dernier et ce week-end. Et nous terminons avec quelques films et événements particuliers concernant le cinéma algérien.
Donc on vous parlera de la programmation et de quoi vous n'avez pas envie de parler. Ah. Je vous pose une colle.
Rien.
On va pas parler d'argent
Des aides de l'État.
Mais ça vaudrait la peine qu'on en parle.
Ça vaudrait la peine, ouais, vraiment.
Bon, bah, nous on n'en parlera pas en tout cas si vous voulez en parler. Vous êtes les bienvenus, évidemment.
Depuis 10 ans que nous existons, chaque année, comme les Gilets jaunes, nous comptons nos sous.
Ah. Mmh.
Voilà. Ouais.
Et si vous arrivez au même résultat que les Gilets jaunes à la fin, c'est forcément...
Voilà, alors je sais pas si on ira défiler devant l'Elysée, mais bon, on y réfléchit.
La place est bien protégée en tout cas.
Voilà.
Merci Maguessoum, vos deux questions.
Non, mais moi je suis désolée, c'est moi qui vais vous poser une colle, parce que j'ai pas de questions que j'ai envie qu'on me pose.
Et ben, vous savez quoi, c'est pas grave.
Interdit.
C'est pas grave.
Très bien.
Parce qu'on en a préparé plein quand même.
Voilà.
Vous êtes donc nos invités, Mouloud Mimoun, Gérard Vaugeois et Nassim Maguessoum, pour parler du Maghreb des films jusqu'à midi. Vous écoutez Beurre FM. Nous sommes le dimanche 9 décembre. Bienvenue dans le 74e numéro de Studio B.
Studio B, les sorties ciné de la semaine.
Et mercredi au cinéma, Spider-Man New Generation.
Ouais, j'ai très envie de le voir ce film. Étonnamment, c'est mon coup de cœur de la semaine.
Je m'appelle Peter Parker. La suite, je suis sûr que vous la connaissez.
Eh ben non, justement, la suite est assez inattendue. Peter Parker va voyager dans des dimensions parallèles où il va notamment rencontrer Miles Morales.
Je m'appelle Miles Morales. Je suis le seul et unique Spider-Man. Du moins, c'est ce que je croyais.
Bah oui, car dans chacune des dimensions parallèles, il y a d'autres Spider-Man.
Salut les garçons.
T'es qui toi?
Moi c'est Gwen Stacy. Je viens d'une autre dimension.
Mais il y en a combien des Spider-Héros?
Il y en a 6, au total dont un en forme de cochon. Et oui, c'est un miracle, Spider-Cochon existe. Et pour de vrai en plus. Et pour ne rien gâcher, c'est un film d'animation que les réalisateurs ont voulu fidèle à l'esprit des comics. Et notamment dans leur manière d'être imprimés, pas toujours très net, parfois décalé. Ils ont essayé de... Il y a eu un vrai travail pour rendre cet effet à l'écran dans ce film. Donc, un film d'animation, c'est le premier Spider-Man qui sort au cinéma, qui n'est pas un film avec des vrais acteurs, mais un film d'animation. Et pour une fois qu'on a un Spider-Man en mode original, avec un vrai parti pré-artistique, qui n'est pas un reboot du préquel, du spin-off, de je ne sais quel autre remake, on en profite, on va voir Spider-Man New Generation ce mercredi.
Rémi sans famille.
Le film de Noël à voir en famille, bah c'est le cas de le dire, avec notamment Daniel Auteuil au casting, bande-annonce.
Je ne m'étais jamais confié à personne sur mon histoire.
Hello. Tu le sais très bien. Je te conduis à l'orphelinat.
Rémi, maman !
Attrapez-le !
Qu'a pu faire cet enfant pour qu'il s'attire les foudres de tout un village ?
Tout votre respect, monsieur, c'est pas votre affaire.
Je vous propose de louer cet enfant.
Je m'appelle Rémi.
Vitalis, monsieur Vitalis, artiste ambulant.
Approchez les enfants, car le spectacle que nous allons vous présenter est reconnu pour être le plus extraordinaire de France.
Je t'ai loué à Barberin pour chanter.
Devant des gens?
En effet.
Vous avez dit que j'y arriverais pas.
Mais tu as le trac, c'est normal au début.
Tu as un don, Rémi, celui d'émouvoir ceux qui t'entendent.
Mon maître ne m'avait pas menti. J'aimais chanter. Et je savais déjà que je ne cesserai jamais de le faire.
Mon cher Rémi, ma mère et moi semblons avoir retrouvé tes parents.
En avant.
Mais mes parents, Capi.
La vie qu'il a avec moi est rude. Mais elle forge son caractère.
Emmenez-les.
On peut pas. On n'y arrivera pas.
Je te promets qu'on va y arriver. J'ai foi en moi.
Rémi sans famille, ça sort donc aussi ce mercredi. C'est une vieille histoire tirée d'un roman sorti en 1878 et qui avait déjà été adapté au cinéma et puis à la télé aussi, notamment au dessin animé. Je sais pas si vous vous souvenez de Rémi sans famille dans le Club Dorothée.
Bien sûr.
Tu regardais?
Bah, bien sûr, voilà, c'est ma génération.
Exactement, c'était dans les années 80. tout le monde s'en souvient, c'était en mode manga, ouais, à l'époque. Et donc voilà, là, c'est un film en France qui est adapté, un film tourné en décor naturel dans l'Aubrac avec un jeune acteur de 12 ans, Malome Paquin, qui n'a pas eu trop de mal pour les scènes de chant car il avait fait partie du cœur d'enfant de l'Opéra de Paris.
Utoya, 22 juillet.
Alors là, bon, ce Utoya, on est sur un autre type de film beaucoup plus triste. Utoya, c'est le nom de cette petite île norvégienne qui accueillait un camp d'été des jeunes d'un parti politique local qui a été attaqué en 2011 par un tueur de 32 ans proche de l'extrême droite. Il a tué 69 jeunes là-bas, il en a blessé 33. Le film raconte cette attaque à la manière d'un thriller, presque même d'un film d'horreur en caméra subjective. Sauf que ce n'est pas une fiction, mais bien une triste réalité. C'est une fusillade qui a beaucoup inspiré les cinéastes, puisque trois films ont été fait, notamment aussi un film de Paul Greengrass qui s'appelle 22 juillet et qui est disponible sur Netflix.
À voir aussi cette semaine, il y a deux films pour enfants.
Ouais, deux films pour enfants forcément, avec la période des fêtes qui approche, des vacances de Noël, etc. Il y a notamment Oscar et le monde des chats.
Cet hiver, ça va miauler au cinéma.
Je m'ennuie tellement enfermé ici. J'ai envie de sortir. Je veux aller à Castopia.
À Castopia, oui, c'est un gros chat d'appartement qui part à la recherche d'un monde merveilleux fait pour les chats et qui s'appellerait donc Castopia. On est sur de l'animation 3D, voilà, c'est l'animation un peu facile, on va dire, et un peu plus recherchée dans un style d'animation plus classique, Pachamama, avec deux petits indiens qui partent à la recherche du totem qui protégeait leur village et qui a été confisqué par les Incas.
Pachamama, on ira jusqu'au bout, tu seras fier de nous.
Voilà, Pachamama, ça sort aussi ce mercredi. À voir également cette semaine Hunter Killer, un gros thriller d'action où la Russie menace les États-Unis. On est au bord de la guerre nucléaire quand le FBI se rend compte que le vrai président russe a en fait été enlevé. À voir également cette semaine dans un autre style, Rêver sous le capitalisme, en ces temps de manifestation de gilets jaunes, un documentaire dont le titre annonce clairement le parti pris, où 12 personnes racontent un rêve qui a pour cadre leur envie de rendement de travail et qui met l'accent sur la souffrance qu'ils y éprouvent. Et puis, une autre sortie de ce mercredi, c'est Une affaire de famille, c'est le film que tu as choisi pour le J'y vais pas, Camille.
Et oui, et tu me poses pas la question si j'y vais.
Non, puisque tu veux plus que je te la pose.
Tu veux que je laisse le suspense.
Mais reste dans le suspense.
Non, bon, alors je vais le dire tout de suite. Oui, j'y vais.
Ah.
Pourquoi? Alors parce que Kore-eda, qui est le réalisateur, hein, m'a eu pendant le Festival de Cannes de 2013. Pour tout vous dire, je ne le connaissais pas tellement et c'est un peu à reculons que je suis allée voir le film Tel père, tel fils dans la grande salle Lumière. Bon, bien sûr, il y avait le plaisir de monter les marches, hein, mais je me suis dit que c'était déjà ça.
Ah oui, t'as monté les
marches.
Et
ouais, et 3 années de suite.
Hein,
enfin
ouais.
Bref, je vous en parlerai plus tard. Et puis là, Kore-eda m'a eu avec son histoire d'enfant échangé, pourtant déjà vue dans pas mal de films. En France, je pense à La vie est un long fleuve tranquille de Châtillies. Aux États-Unis, il y avait eu L'échange de Clint Eastwood et avec Angelina Jolie. Mais dans l'œil du réalisateur japonais, ça change tout. Il sait prendre son temps, installer la situation pour terminer par une explosion d'émotions. En 2013, il avait eu le prix du jury pour Tel père, tel fils. En 2018, il est reparti avec la Palme d'or pour Une affaire de famille, donc. Et le réalisateur est qualifié par certaines critiques comme celui qui sait le mieux filmer l'enfance. Et il s'intéresse encore une fois à cette période de la vie, puisque Une affaire de famille raconte l'histoire donc d'une famille qui recueille une petite fille de la rue battue par ses parents. Télérama a écrit en mai 2018 que le film s'approchait de la perfection. Carrément. Les Inrocuptibles parlent, eux, de la délicatesse du cinéaste qui, est encore une fois, s'est touché droit au cœur. Alors moi, j'ai envie de les croire. Hein, il m'a déjà bouleversé en un seul film. Et puis, comment ne pas aimer ce réalisateur qui, pour son prochain film, quand même, a choisi de réunir Juliette Binoche, Catherine Deneuve et Ethan Hawke. Bah, moi, je choisis de les croire. Je choisis de l'aimer, Kore-eda. Et c'est pour ça que j'irai voir Une affaire de famille mercredi.
Un des meilleurs ambassadeurs du cinéma asiatique. Hein,
tout
Kore-eda.
À fait, ouais. Exactement.
Une affaire de famille, ça sort donc aussi ce mercredi. Allez, interview.
Studio B, l'interview.
On en arrive à notre interview de nos invités de la semaine, Mouloni Moun et Gérard Vaugeois de l'équipe du Maghreb des films. Vous êtes présent dans l'organisation de ces rencontres cinématographiques depuis le début. Et puis Nassim Egessoum, vous êtes la réalisatrice notamment du film 10 Femmes, qui est représenté cette année puisqu'il était sorti en 2014. Il avait déjà été présenté en 2014 et puis il revient cette année puisque vous faites une sélection de films qui ont déjà été présentés durant les précédents festivals à l'occasion du 10e anniversaire. Pour ceux qui ne connaissent pas le Maghreb des films, Mouloni Moun, comment vous le présenteriez ?
Ben, je rappellerai simplement que c'est une initiative qui est née de plusieurs amis cinéphiles et non cinéphiles, à partir du constat selon lequel les cinémas du Maghreb, fabriqués de l'autre côté de la Méditerranée, n'avaient plus de visibilité sur les écrans en France. Et avec Gérard, ici présent, ça nous a interpellés et on s'est dit, bon ben, on va organiser, mais non pas un festival, mais plutôt des rencontres parce que ce qui nous paraît important, c'est qu'il y ait autour de ces thématiques et de ces films des échanges approfondis, des échanges et donc, voilà, le Maghreb des films est né comme ça. Chaque année avec pas mal de difficultés d'ordre matériel parce que les institutions ne nous aident plus beaucoup. On se pose des questions, on se dit mais qu'est-ce qu'il a fait ce Maghreb pour être aussi maltraité. Et le paradoxe, c'est que on a été les premiers à apparaître sur la scène parisienne, intramuros, en 2009. Et que depuis, on a vu fleurir autour de nous toute une ribambelle de festivals qui, eux, semble-t-il, ont meilleure presse auprès des financiers, puisqu'ils ont des budgets que nous n'avons pas. Et nous sommes gênés aux entournures quand il s'agit de récupérer les copies, de payer les transports, de faire venir les cinéastes, etc. Donc c'est un peu gênant et ça nous pénalise, quoi. Voilà. Donc.
Et c'est indispensable pour vous d'avoir un festival en France qui représente le cinéma du Maghreb.
Et fait, on
n'a pas l'intention d'être seul.
Oui.
Ce serait
prétentieux.
Ce serait une ânerie. Il est normal que d'autres aient le même désir et fassent le même travail. Je crois que ce qu'on veut, nous, principalement, c'est être une vitrine aussi large que possible, faire connaître, faire découvrir, et ne pas rester dans une position strictement cinéphile. Les relations entre la France et le Maghreb sont des relations anciennes. Il y a une longue et lourde histoire qui nous unissent. Et je crois qu'on est les seuls à peut-être un peu insister, lourdement je ne pense pas, mais on peut à l'extérieur le penser comme ça, sur la colonisation, sur la guerre d'indépendance, sur le sort des Harkis. Sur,
bon. Mais ça fait aussi partie des films, enfin des thèmes qui reviennent dans les films faits au Maghreb. Ça,
c'est totalement évident. C'est là, tout simplement.
Bien sûr,
parce que c'est
l'histoire qui est interpellée toujours.
Oui, Nassima.
Allez-y. Ben, je trouve que par rapport aux autres festivals, enfin moi auxquels j'ai participé et que j'aime beaucoup, il y a quand même une possibilité dans le Maghreb des films par rapport à leur programmation qui peut être assez surprenante et qui correspond pas forcément aux derniers films sortis, etc., d'actualité, comme, ou des films plus difficiles, enfin, qui, moi, m'ont intéressé, comme les films de Hicham Nasri, qui est, par exemple, un auteur marocain qui est très singulier et qui n'a pas été programmé dans d'autres festivals comme Enbaï, Lullaby ou d'autres films qui sont plus difficiles en fait à aborder parce qu'ils sont très, on va dire, artistiques et déroutants. Ils n'ont pas une écriture cinématographique commune, ou alors les rétrospectives de Buanani que vous avez faites, etc. C'est vraiment, pour le coup, c'est des risques qu'ils prennent et qui sont, enfin, louables, mais qui n'attirent pas forcément un public très haut, enfin dans l'actualité d'un cinéma qui correspondra à des sorties, etc., quoi. Enfin, je trouve que là-dessus le Maghreb des films prend, enfin, a une spécificité aussi que moi je trouve intéressante.
Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant dans ce
faire connaître et dire ce qu'on pense.
Voilà, dire ce qu'on pense, et puis aussi mettre en évidence la recherche au niveau des écritures cinématographiques. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse aussi, c'est de montrer, comme à une époque en France où on s'interrogeait avec l'émergence de la nouvelle vague, etc., sur une nouvelle manière de produire, de réaliser, de filmer. Là, c'est pareil, on s'aperçoit qu'au Maghreb, il y a de véritables pépites. Elle vient de citer Hicham Nasri, on pourrait citer Nasser Khémir, ce cinéaste tunisien prolifique dont je rappelle d'ailleurs que nous allons présenter le film Whispering Sands le 11 décembre.
Et ben alors, si vous me permettez, on va pouvoir bien explorer toute la programmation et notamment la prochaine semaine.
Je ferme la parenthèse.
On va y revenir juste après une courte pause. Vous restez avec nous, vous restez avec nous aussi, Gérard Vaujoie et Nassima Guessoum. On parle du Maghreb des films jusqu'à midi dans Studio B sur Beurre FM.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Camille.
Merci d'être avec nous. Une pause au cinéma et culture dans l'actualité chargée de cette semaine. C'est Studio B tous les dimanches entre 11h et midi sur Beurre FM. On parle cette semaine du Maghreb des films. Nos invités Mouloud Mimoun et Gérard Vaujoie, c'est l'équipe qui organise ce Maghreb des films. Et puis Nassima Guessoum qui a présenté un de ses films dans cette édition du Maghreb des films. Camille.
Oui, alors on le disait tout à l'heure, le Maghreb des films fête ses 10 années d'existence cette année. À l'occasion, vous proposez une rétrospective de quelques films qui ont marqué ces années dans la rubrique Revoir. Comment vous avez choisi ces films? Peut-être un engagement particulier, un message particulier que vous vouliez véhiculer?
Non, c'est-à-dire que là, on revient sur la philosophie de départ de nos rencontres, c'est-à-dire que on a présenté des œuvres inédites, originales. Bon, les gens les ont vues qu'une fois, et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas plonger dans nos archives et ressortir et reprogrammer des films qui ont été marquants. Je pense à un film comme Les Terrasses de Mirza Kalouach, par exemple, qui est entre parenthèses l'un de ses meilleurs derniers films, sans doute le meilleur avec Babelwed City et Omar Getlato. Et donc voilà, c'est un exemple. On a fait la même chose pour Gérard. Tu peux citer d'autres.
Oui, on a pris ce qui avait été, de notre point de vue, le mieux accueilli dans la mesure.
Voilà.
On pouvait repasser le film pendant les années précédentes, y compris certains films qui ont eu une toute petite carrière, qui restent d'un accès plus difficile, disons, comme Making of
Nouri Bouzid, tunisien, qui est un film important, énorme.
L'un des premiers à parler de la question de l'enrôlement terroriste.
La plupart de ces films qui soit n'ont pas été distribués, soit maltraités par les circuits d'exploitation, et sur lesquels on a souhaité redonner un coup de projecteur.
Et cette édition du Maghreb des films s'est ouverte et se clôturera avec un hommage à Maurice Audin à travers deux films que lui a consacré le cinéaste François de Merliac. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Maurice Audin, de pourquoi avoir fait ce choix?
Ben, c'est-à-dire que là, on a rencontré l'actualité, j'allais dire,
oui, c'est ça,
avec la reconnaissance par le président Emmanuel Macron du fait que la disparition de Maurice Audin, longtemps inexpliquée puisqu'on parlait d'évasion, est en fait une disparition, et en fait de disparition, c'est une liquidation physique. Donc il est mort sous la torture. Déjà, nous, on savait, les journalistes, depuis quelques années, en ayant lu les mémoires du général Ossarès, que Maurice Audin avait bien été liquidé par les parachutistes au cours des interrogatoires poussés. Donc, à partir de là, on a rencontré François, François de Merliac, qui, lui, a longtemps travaillé, faisait partie du comité Maurice Audin, et qui a fait depuis des années un travail important, puisque on va présenter Maurice Audin, la disparition, hein, 70 minutes qu'il a tourné en 2010. Et là, plus récemment, il a tourné Les mathématiciens, Maurice Audin, où il y a d'ailleurs dans le film une scène au cours de laquelle on voit le président Macron rencontrer la veuve de Maurice Audin, Josette, etc.
C'est un beau moment. C'est un film à voir peut-être rien que pour ce moment-là.
Absolument.
Il se déplace directement chez elle.
Qui est le mathématicien.
Voilà.
Star.
Voilà, Villani est aussi présent dans le film.
Ce court film de 14 minutes s'appelle d'ailleurs Maurice Audin, une affaire de mathématicien.
Oui, voilà. On voit vraiment la mobilisation de la communauté scientifique pour faire reconnaître.
Exactement, pour reconnaître.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Maurice Audin a passé sa thèse post-mortem.
Oui, c'est ça, in absentia, voilà. C'est ça. Autre thème développé avec votre documentaire, Nassima Guessoum, 10 949 femmes. C'est ces femmes qui ont œuvré pour l'indépendance de l'Algérie, qui ne sont pas reconnues finalement. Pourquoi vous êtes intéressée à ce thème-là particulièrement ?
Je dirais pas qu'elles sont pas reconnues. Elles ont été reconnues, hein, elles ont un statut. C'est simplement qu'elles sont. Enfin, je veux dire, on dit toujours que c'est les hommes qui écrivent l'histoire, donc
oui.
Elles sont davantage mis en avant.
Exactement.
Tous les pays du monde et dans toutes les révolutions, hein, y compris la révolution cubaine ou autre. J'avais déjà fait des études d'histoire en fait avant de faire des études de cinéma et je m'étais plutôt penchée sur la question post-indépendance. Et c'est vrai que j'avais pas le souvenir, en tout cas dans mes lectures, de la présence des femmes dans le mouvement, en tout cas dans les livres d'histoire. Et il y avait eu, je crois que c'était en 2004 ou 2005, le film La bataille d'Alger qui a été diffusé sur Arte, puisque le film avait longtemps été, non pas interdit officiellement, mais avait subi une forme de censure. Donc c'est un film qui a été réalisé en 1965, avait eu Lion d'Or à Venise, je crois.
Oui, c'est ça.
Qui a été réalisé par un Italien, Gillo Pontecorvo, mais qui est une production de l'État algérien. Puisque c'est presque une commande.
Privé algérien.
Ouais.
C'était Yassef Saadi à travers sa boîte de production qui s'appelait Casbah Film.
Oui.
Qui a produit le film.
C'est quand même l'État algérien qui a mis à disposition énormément d'argent.
Surtout l'armée, des choses comme ça, ouais.
Bah, il y a quand même bon.
La logistique.
Ça reste une vitrine
du
combat révolutionnaire, de la guérilla algérienne, etc. Bon, bref, l'idée c'était que, en fait, dans ce film, c'était la première fois qu'on mettait en scène quand même, et c'est vraiment une mise en scène pour le coup, la participation des femmes, notamment dans les attentats qui étaient commis à Alger à l'époque. Donc bon, c'est ce film en fait qui m'a renvoyé cette image. Et puis du coup, en fait, je suis allée un petit peu plus loin, voilà, chercher qui étaient ces femmes. Et donc parmi les 10 949 femmes qui ont été reconnues comme anciennes combattantes, voilà, il y en avait des milliers d'autres, et pas seulement des femmes qui posaient des bombes. C'était aussi ce qui m'intéressait. Quoi.
Comment vous avez eu ce chiffre, d'ailleurs?
Ah, c'est le chiffre officiel. Hein.
Oui, voilà.
Des chiffres d'accord, officiels. Voilà. Elles sont recensées, elles touchent une pension et elles ont leur carte d'anciennes combattantes. À qui, au lendemain de l'indépendance, évidemment, on a dit « retournez dans vos cuisines ».
Oui, c'est ça, exactement.
Alors, c'est pas un chiffre qui est accessible comme ça, parce que moi, j'ai voulu justement avoir accès auprès du ministère des Anciens Combattants en Algérie, au répertoire. Mais alors là, comme il y a des problèmes de faux moudjahidine, on n'a pas voulu me laisser accès au répertoire, même en tant que chercheur ou quoi au caisse. Par contre, c'était une historienne qui, elle, dans les années 80-90, a fait sa thèse sur ce sujet, Jamila Amranmin, qui, elle, en fait, a eu accès à ce moment-là. Elle était elle-même ancienne moudjahida, a eu accès au répertoire et a délivré ce chiffre qui date de 1973, le moment où on a pu recenser, en fait, toutes les combattantes, quoi, qu'ont pu avoir droit
à... Et malheureusement, beaucoup, comme ton héroïne, Nassima Heblal, ont disparu.
Oui.
Et on l'a dit tout à l'heure, le film, vous l'avez montré déjà dans le Maghreb des films en 2014. Pourquoi le reprendre cette année?
Parce que c'est un des films les plus marquants. Et puis,
Il y avait
aussi un petit hommage à l'un des nôtres,
un de nos collègues qui est décédé.
Disparu cette année, donc c'était un peu le film fétiche.
Ah, d'accord.
Voilà, donc on a souhaité.
On peut citer son nom pour lui rendre hommage.
C'est formidable parce que moi j'ai une petite histoire personnelle avec son héroïne.
Ah oui.
Oui, Nassima Heblal. Moi, j'étais jeune journaliste algérien au lendemain de l'indépendance, ayant intégré l'agence de presse, l'équivalent de l'AFP là-bas, qui s'appelle l'APS, Algérie Presse Service. Et j'ai rencontré pour la première fois Nassima Heblal, qui avait du mal, alors que nous étions en 1963, donc un an après l'indépendance, à trouver du travail. Oui. Or, par chance, elle a retrouvé Mohamed Benmal, avec qui elle avait travaillé en Tunisie, qui lui a donné un poste administratif au sein de l'agence pour qu'elle gagne sa vie.
Non, c'est Mohamed Yazid.
Hein?
C'est Mohamed Yazid.
Ah. C'est pas
Mohamed Benmal, c'est Mohamed Yazid.
Non, mais elle l'avait rencontré, elle le dit dans ton film.
Ouais.
Elle avait rencontré aussi Benmal. Ouais. Non, mais je veux dire, elle a retrouvé Benmal après l'indépendance. D'accord. Elle a été le voir, elle lui a dit, est-ce que tu peux me trouver un boulot? Et il l'a engagé dans les services administratifs de l'agence de presse. Voilà.
D'accord.
Je ferme la parenthèse de l'anecdote personnelle.
C'est plein d'anecdotes aussi de ce Maghreb des films. Restez avec nous, c'est l'heure des news.
Studio B, l'actu ciné.
On commence par le box-office. Cette semaine, c'est le Grinch qui est en tête du box-office en France. Premier avec 580 000 billets vendus. C'est pas non plus un succès écrasant, mais ça suffit pour faire descendre Les Animaux Fantastiques et Bohemian Rhapsody d'une place chacun. Ils deviennent donc deuxième et troisième, avec respectivement 515 et 341 000 spectateurs supplémentaires. Juste derrière, on retrouve toutes les sorties de la semaine. Sauver ou périr, le film autour des pompiers, quatrième avec 338 000 places. Le Disney Casse-Noisette, seulement cinquième avec 254 000 spectateurs. C'est pas beaucoup pour un Disney. Les Veuves, le thriller de Steve McQueen que tu nous conseillais la semaine dernière, Camille, 210 000 personnes t'ont écouté quand
même. Ah, quand même.
Ouais, ça fait du monde. Hein.
C'est plutôt pas mal.
Ouais, d'ailleurs, Steve McQueen t'a envoyé un SMS.
Bien sûr, il m'a dit yeah, thank you, Camille.
Voilà. Il l'a fait comme ça. Avec l'accent. Et on termine cette session chiffres avec le box-office US où je vous donne les chiffres en dollars car le classement est là-bas toujours réalisé en fonction du chiffre d'affaires des films. C'est le même tiercé de tête que la semaine dernière, mais dans le désordre. Ralph 2 reste premier avec 25 millions de dollars rapportés supplémentaires. Mais le Grinch repasse devant Creed 2, la suite de Rocky, avec donc 17,7 millions de dollars pour le Grinch contre 16,8 millions de dollars rapportés pour Creed 2. On reste aux États-Unis avec les nominations pour les Golden Globes qui sont tombées. Boum, faut les ramasser du coup.
Ouais.
C'est...
Voilà la petite blague, oui, merci. Bah oui, bah oui. Je vais passer à autre chose. Donc oui, les Golden Globes, les nominations sont tombées. Alors cette cérémonie est souvent décrite comme l'antichambre des Oscars. Elle aura lieu le 6 janvier prochain. Vice, biopic sur Dick Cheney avec Christian Bale, est le favori cette année puisqu'il repart avec 6 nominations. Et sans grande surprise, A Star is Born avec Lady Gaga est juste derrière avec 5 nominations.
Bon, est-ce que ça fera peut-être une première grosse récompense pour Lady Gaga?
Oui, elle est nommée en tout cas et on parle beaucoup d'elle, donc peut-être.
Peut-être, c'est on verra possible. Bien. Un grand oublié maintenant.
Oui, c'est First Man avec Damien Chazelle qui n'obtient que 2 nominations. nominations, celui de meilleure actrice dans un second rôle pour Claire Foy et meilleure musique pour Justin Hurwitz. Côté français, ce n'est pas fructueux non plus puisque le compositeur Alexandre Desplat est le seul nommé côté France pour la musique de L'île aux chiens de Wes Anderson.
Ah, film à voir, L'île aux chiens, si vous ne l'avez pas vu, très très bien. Une guest star chez Philippe Lachaud.
Et oui, le réalisateur de Baby Sting 2 vient de dévoiler la bande-annonce de Nicky Larson, pardon, son prochain film. On peut alors découvrir que Pamela Anderson fera partie du casting. Et oui, alors bon, à mon avis, il s'agira seulement d'un petit caméo en clin d'œil. On aura la réponse le 6 février prochain.
S'il est dans la bande-annonce, c'est peut-être l'importante, on ne sait pas.
Peut-être, oui, rôle principal et bim.
Voilà, juste pour te faire mentir.
Exactement, si pour me donner tort, merci.
Trois infos en bref pour terminer.
Oui, on parlait des Golden Globes, et bien on vient d'apprendre que Kevin Hart sera le maître de cérémonie des Oscars. Universal prépare un film inspiré de la musique de Prince, mais attention, ce ne sera pas un biopic. Oh bah tiens, on ne sait pas trop ce que ce sera.
Bohemian Rhapsody, on va faire des...
Mais c'est même pas, ça ne sera pas sur Prince en fait, ce sera inspiré de la musique de Prince. Voilà, donc on verra ce que ça donne. La sortie du prochain film de Luc Besson vient d'être décalée de janvier à mars. Alors, aucune raison officielle n'a été donnée, mais ce serait peut-être dû aux accusations d'agression sexuelle contre les réalisateurs qui se multiplient ces derniers temps.
Restez avec nous, on parle du Maghreb des films. Ça se passe en ce moment, c'est jusqu'au 18 décembre, le Maghreb des films. On en parle avec Mimoun et Gérard Vaugevois de l'équipe du Maghreb des films. Ils sont présents depuis le début dans cette organisation et donc ils nous parlent de ce Maghreb des films. On en parle aussi avec Nasima Guesmoun, réalisatrice notamment de 10 949 femmes qui a été présentée en 2014 et qui a été reprise cette année dans la sélection du Maghreb des films. C'est Studio B, on est ensemble jusqu'à midi, à tout de suite.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Camille.
Et on parle du Maghreb des films aujourd'hui dans Studio B. Nos invités Mouloud Mimoun et Gérard Vaugevois de l'équipe d'organisation du Maghreb des films et Nasima Guessoum, c'est la réalisatrice notamment de 10 949 femmes, film présenté en 2014, puis repris cette année et dans la sélection des films qui ont voulu être repris dans cette édition du Maghreb des films.
Nasima, dans 10 949 femmes, vous intéressez à une femme en particulier, qui est Nasima Ablal. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire pourquoi elle, comment vous l'avez rencontrée?
Oui, alors je vais essayer d'être brève. Alors, donc Nasima Ablal, elle était agent de liaison, en fait, pour le CCE. Donc c'est l'organe, on va dire, de commandement.
L'organe dirigeant à l'époque du FLN dans la clandestinité, sur Alger.
Donc c'était le comité de coordination et d'exécution. Donc elle avait elle était agent de liaison entre le CCE et le syndicat de l'UGTA. Plus tard, bon, elle a eu plusieurs rôles. Hein. C'est une femme. Donc elle avait un poste important. On va dire, elle avait un rôle important. Et elle s'est engagée. Ce qui m'intéressait en fait chez elle, c'est qu'elle s'est engagée très jeune. Pas juste au moment où la guerre d'indépendance s'est déclenchée, mais dès les années 45. Donc, elle permettait en fait de voir toute l'évolution du mouvement nationaliste en Algérie sur quasiment une vingtaine d'années. Alors ça, on va dire, c'est l'aspect, l'intérêt historique, mais c'est surtout un intérêt humain parce que c'était une femme exceptionnelle de par son intelligence, sa façon d'être, son humour, son engagement physique, moral et intellectuel.
Malgré les prisons et les tortures.
Oui, elle a fait plusieurs années de prison. Elle parle des tortures un petit peu vers la fin parce que c'est un sujet qu'elle évite beaucoup.
Quand elle a été arrêtée pendant ce qu'on appelle la fameuse bataille d'Alger. Hein. Mais bon, il n'y a qu'en France qu'on appelle la bataille d'Alger parce qu'en réalité, côté FLN, il n'y a pas de bataille d'Alger. Mais bon, elle a été arrêtée suite à la répression qu'il y a eu en Algérie à ce moment-là, parce que on confie à l'armée des pouvoirs de police, et elle, c'est après la grève des 8 jours, en fait, qui a vraiment... Et donc, elle a été arrêtée par les paras, et elle a fait plusieurs centres de torture, dont la Villa Cesini, c'est là où elle est restée le plus longtemps, elle est restée 40 jours. Et ensuite, elle a été à l'hôpital et ensuite elle a été en prison et après elle a eu un procès, elle a été condamnée à 5 ans de prison. Et c'est vrai que la torture, c'est à la fois elle qu'on parle plus tard et à la fois un sujet où dans ma démarche à moi, je voulais pas trop rentrer, on va dire, de manière abrupte et il fallait que ça vienne d'elle ou d'autres personnes que je rencontrais pour en parler. Quoi.
Vous parlez du côté humain, c'est vraiment ça. Vous mettez votre caméra à sa hauteur, vous êtes chez elle, vous prenez le café avec elle. C'était dans votre tête écrit comme ça déjà dès le début. Vous saviez où vous alliez.
Alors il y avait c'était une écriture. C'était une façon de se démarquer des films historiques, hein, on va dire ça comme ça. C'est qu'il fallait qu'il y ait l'histoire, fallait qu'il y ait la grande histoire, mais fallait qu'il y ait l'histoire de cette dame, de cette vieille dame aujourd'hui. Qui nous raconte son passé et je voulais que ça ressemble à une histoire comme il était une fois. C'est-à-dire, et il était une fois, c'est ce qu'une grand-mère raconte à ses petits-enfants. Et voilà, le pari, c'était comment raconter la grande histoire à hauteur humaine, quoi, sans forcément des gros chiffres, sans des explications géopolitiques. Oui. Vous voyez ce que je veux dire, complexe que moi, pourtant, j'avais apprise. À l'université et c'était pour voilà transmettre aussi cette histoire de l'autre côté de la Méditerranée à ceux qui vivent ici et là-bas. C'était ça, c'est comment la faire entendre jusqu'au bout. Il y a quand même encore toujours la même manière pour moi hein, de raconter l'histoire de la guerre d'indépendance algérienne. Je dis pas la guerre d'Algérie, en tout cas en France. Et là encore, on l'a vu dans les documentaires qui sont passés à la télévision, qui moi m'ont horripilé quoi.
Ah oui, pourquoi oui. Ça vous a horripilé?
France-Algérie, ben parce que on a toujours l'impression que il va y avoir du neuf et les Algériens sont toujours, en tout cas côté FLN, dépeints de la même manière. On dépeint toujours leurs crimes, leurs barbaries, pas leurs intellectuels, pas les gens qu'on menait. Ah, j'ai envie de pleurer, ça m'énerve.
Oui, c'est un sujet qui vous... Nassima, vous avez développé une relation très, très personnelle avec elle. Vous avez le même prénom.
Bon, ça c'est complètement hasardeux.
C'est vrai?
Oui,
du coup, oui.
C'était bien avant moi, donc je ne me suis pas dit, je vais rencontrer une Nassima.
Vous vouliez absolument une Nassima?
Non. C'est surtout parce que dans la génération des femmes qui avaient fait partie du Parti du peuple algérien, donc l'époque de Messali Hadj, il restait très peu de personnes vivantes qui étaient aussi enclines à faire partie d'un documentaire et à faire partie d'un documentaire filmé de ce type. De façon,
c'est une d'accord.
Formidable comédienne. Elle
est... Oui, une rencontre.
Elle pourrait être comédienne,
c'est
oui, complètement.
C'est un personnage de cinéma.
Complètement.
Le fléau du documentaire, c'est le commentaire. Et là, il n'y a pas de commentaire. Il y a la vie.
Oui.
Elle regarde la caméra, elle a des regards, comme si c'était elle qui faisait la mise en scène.
Enfin, oui, complètement.
Elle fait bien attention à voir si on l'a bien enregistrée, si on l'écoute. C'est un morceau de...
Elle m'a beaucoup aidée.
Oui, c'est marrant parce qu'elle fait très attention à votre caméra. Elle veut pas.
Elle en a joué peut-être.
Elle veut pas s'arrêter tant que vous filmez. Elle en joue beaucoup. Ouais.
Mais moi, je crois vraiment. En fait, je me suis dit bon, suite aux questions surtout des téléspectateurs, parce qu'en fait, quand j'étais dedans, j'étais pas dans une réflexion aussi intellectuelle, mais c'était plus instinctif en fait. Après, je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. On va dire entre elle et moi. En tout cas, moi, j'avais envie de ça. Elle en avait aussi envie. Je pense d'être filmée de cette manière-là, quoi. Après, il fallait accepter qu'elle soit bord cadre ou hors cadre. Mais c'est après que je me suis dit, tiens, c'est marrant qu'elle en joue autant. Enfin,
Oui, vous n'avez pas réalisé sur le moment, c'est
non,
en regardant après.
Non, j'étais pas voilà, dans une distance intellectuelle avec elle. Je ne sais pas comment vous dire.
Nassima Guesson, vous en parliez, il y a une vision française de la guerre d'indépendance algérienne et une vision algérienne. Est-ce que vous avez montré votre documentaire en Algérie et en France?
Je ne défends pas une vision algérienne,
oui.
je défends plus une représentation des Algériens dans le cinéma, en tout cas qui traite de ces questions-là. Je ne suis pas pro roman national algérien non plus. Quoi. Oui, le film a été diffusé 3 fois uniquement lors de festivals. Il a été primé d'ailleurs en novembre 2014. Après je vais laisser peut-être Mouloud Mimoun parler des difficultés de l'exploitation cinématographique.
C'est ça, comment ça se passe, voilà.
Oui, il y a plus de salles. Voilà, le problème, ouais, c'est qu'il y a un désert total au niveau des salles d'exploitation, au niveau des salles de cinéma. Nous avions à peu près quelque chose comme 350 salles en 62 au lendemain de l'indépendance. Il en reste aujourd'hui entre 10 et 15 à travers tout le territoire national.
Et c'est vraiment très, très peu.
C'est,
oui.
C'est une goutte d'eau dans la mer.
Mais alors pourquoi disparaissent ces salles?
Il y a 40 millions d'habitants.
Ben, c'est suite... bon, il faut dire qu'il y a eu la conjonction de plusieurs phénomènes. Il y a eu d'abord un abandon total de la part des pouvoirs publics qui ont fait une réforme qui a fait que les salles de cinéma sont tombées dans un domaine public et confié la gestion à des municipalités dont ce n'est pas le métier. Les professions avaient disparu, les distributeurs, il n'y en avait plus, donc les films ne venaient plus. La cinémathèque algérienne, qui était le fleuron du cinéma algérien à l'époque, et notamment de sa diffusion, puisqu'elle avait un réseau de 17 salles à travers le pays, est tombée en déliquescence, et son directeur, Boudjé Makarèche, a été mis au placard. Donc tout ça a fait que, plus la décennie noire qui est arrivée par là-dessus, hein, c'est-à-dire la guerre civile des années 90, qui a fait que les gens n'ont plus pris le chemin des salles de cinéma. Mais le drame, en fait, c'est à partir des années 2000 qu'ont fait les différents ministres de la culture qui nous avaient promis la construction de 150 salles, qui nous avaient promis plein de choses... des studios de cinéma, des laboratoires, rien de tout.
Pourtant,
ça.
Pourtant, le cinéma algérien est assez prolifique. Vous en parliez tout à l'heure. Ça fait partie de la programmation qui reste là jusqu'au 18 décembre.
Alors, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en dehors des circuits d'État, souvent contre l'État algérien, il y a toute une génération de jeunes cinéphiles et algériens et cinéastes. Comme je pense à Farhani, à Karim Moussaoui, à tous ces gens qui ont redonné des lettres de noblesse au cinéma algérien avec une extraordinaire inventivité dans les écritures cinématographiques. Je pense en particulier à Farhani, avec un rond-point dans ma tête. C'est un film ovni assez extraordinaire. Karim Moussaoui est passé à la fiction... Lakhdar Hoxha aussi, voilà, il y a cette génération. Mais il se débrouille avec les aides françaises.
Oui, c'est ça. La France a un rôle indispensable.
Quand ils les ont, oui, bien sûr.
Parce que forcément, c'est pas toujours facile.
Mais ils se débrouillent. Mais en tout cas, il y a un noyau.
Oui, il y a de la création, en tout cas.
C'est des gens.
Je vais quand même me permettre de citer des femmes parce que
vous ne citez que les gens. Allez-y, Nassima.
Nariman Nari.
Voilà.
Loubia Hamra est un beau film.
Oui. Loubia Hamra est un beau film. Et Nariman, elle a fédéré tout ce groupe de cinéastes. D'ailleurs, elle intervient sur la plupart de leurs films.
Donc elle a un rôle, très important.
Elle a un rôle moteur.
On va être pris par le temps. On va devoir s'arrêter là. L'émission doit se terminer.
Il y approche. Voilà. On a encore plein de choses à dire.
Je voulais dire un mot quand même de cette journée du samedi 15 décembre à 13h45 à l'école normale supérieure pour cet hommage aux 40 années de Cinémaction, parce que le programme y est très riche. Donc on aura des intervenants de qualité pour une table ronde autour donc de la figure de Guy Hennebel, donc ce critique. Sa veuve sera là, elle participera au débat.
Et alors,
donc on note
tout le reste du
voilà.
Ça c'est le 15 décembre.
Il y a deux films programmés
qu'il faut absolument voir.
Elle est algérienne 30 ans voilà. après, qui sont deux, qui est un diptyque étonnant,
formidable.
Voilà. Oui, vous pouvez tout retrouver voilà, sur le site internet Maghreb des films.
maghrebdesfilms.fr. Merci beaucoup à vous trois. La suite du programme, c'est le Book Club de Philippe Robichon. On se retrouve dimanche prochain, 11h midi. D'ici là, n'oubliez pas que le cinéma, c'est mieux au cinéma. Ciao.
Ciao.
Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.